Chapitre 13. À part le puissant cadenas de fer qui fermait les portes du placard, l'œil ne rencontrait aucun objet dans la chambre qui ne l'affligeât par sa forme disgracieuse ou son insuffisance matérielle. Invendable à la clientèle ordinaire à cause de ses nobles proportions, ce cadenas avait été cédé au professeur, pour une somme infime, par un brocanteur de l'Est de Londres. La pièce était vaste, nette, bien tenue, et pauvre, de cette pauvreté qui suggère l'idée d'une privation de tout, sauf de pain. Le papier seul ornait les murs, papier vert à l'arsenic, marqué çà et là de taches indélébiles, dont les plaques semblaient les vieilles cartes géographiques de continents inhabités. Le camarade Ossipan était assis devant une table de bois blanc près d'une fenêtre. Il se tenait la tête entre les mains. Vêtu de son unique complet de cheviotte, traînant sur le plancher une paire de pantoufles incroyablement éculées, ses mains disparaissant dans les poches ballonnées de son veston, le professeur allait et venait, racontant à son robuste visiteur l'entretien qu'il avait eu récemment avec l'apôtre Michaelis. Le parfait anarchiste semblait se dérider quelque peu à présent. Il ne savait rien de la mort de Verloc. Pas étonnant. Il ne met jamais le nez dans les journaux. Il dit que ça l'attriste, mais peu importe. J'ai donc été le voir à sa villa. Pas une âme aux alentours. Il m'a fallu crier une demi-douzaine de fois avant qu'il me répondît. Je le croyais couché, profondément endormi. Pas du tout. Depuis plus de 4 heures déjà, il travaillait à son livre. Je l'ai trouvé dans sa petite cage, assis au milieu d'un fouillis de manuscrits. Sur la table, à portée de sa main, il y avait une carotte crue à moitié rongée, son déjeuner. Il vit à présent d'un régime de carottes crues et d'un peu de lait. Et quel air cela lui donne-t-il? S'enquit le compagnon Ossipon d'un ton nonchalant. Un air angélique. J'ai ramassé une poignée de ses feuilles par terre. C'est d'une étonnante pauvreté de raisonnement. Aucune logique. Il n'a pas de suite dans les idées. Mais ce n'est rien. Il a divisé sa biographie en 3 parties qu'il intitule « La foi, l'espérance, la charité ». Et son œil prophétique voit le monde à venir comme un immense et magnifique hôpital où le fort se dévoue pour le faible. Le professeur se tut. Conçois-tu cette stupidité, Ossipon? Le faible. Mais c'est le résultat de tout le mal qui existe ici-bas, continua-t-il avec sa farouche assurance. Je lui ai fait part de mon idéal, moi aussi. Je lui ai dit que je rêvais d'un monde sur le modèle d'un abattoir, où tous les faibles seraient exterminés. Comprends-tu, Ossipon? L'origine de tous nos maux, les voilà, nos sinistres maîtres, les faibles, les veules, les sots, les lâches, les découragés et les cœurs serviles. Ils sont légions, et ils détiennent le pouvoir. À mort. La seule condition du progrès est là. Suis-moi bien, Ossipon. D'abord, la foule immense des incapables doit périr, puis la masse des insuffisants. Tu vois cela? En premier lieu, l'aveugle. Ensuite le sourd-muet, après lui le bancal et la longue série des débiles, des éclopés. Que tout infirme soit condamné. Toute tare, tout vice, tout préjugé, toute convention doit être extirpée sans miséricorde. Et que restera-t-il? Fit Ossipon d'une voix morne. L'effort dont je suis, j'ose le dire, déclara le professeur, minuscule et blême, tandis que ses amples oreilles, réduite à une mince membrane flottant au large de son crâne fragile, se colorait d'un rouge vif. « N'ai-je point assez souffert de cette oppression des faibles ? » déclama-t-il, et frappant sur la poche intérieure de son veston. « Et pourtant, je suis la force. »« Ah, qu'on m'en donne le temps ! Le temps ! Et alors, gare à cette multitude trop stupide pour ressentir la pitié ou la crainte. Parfois, j'en arrive à croire qu'ils ont tout de leur côté. Tout, même la mort. » Mon arme. Viens prendre un boc avec moi au Silène, invita le robuste Ossipon, après un intervalle où le silence fut troublé seulement par le claquement des pantoufles aux pieds du parfait anarchiste. La proposition fut acceptée. Le professeur était jovial ce jour-là, à sa manière. Il donna au compagnon une tape sur l'épaule. Un boc, soit. Buvons et réjouissons-nous, car nous sommes forts, et demain nous mourrons. Tout en mettant ses chaussures, il continua de discourir de son ton bref et décidé. « Et qu'est-ce qu'il y a de neuf, Ossipone? Tu as l'air morose et tu cherches même ma compagnie. J'ai entendu dire qu'on te voyait constamment dans les lieux où les petits vers font dire des bêtises. Pourquoi? As-tu lâché ta collection de femelles? Voilà les faibles qui font vivre les forts dans ton genre, hein ?» Il frappa du pied qu'il venait de lasser et attrapa son autre bottine, lourde, à semelle épaisse, poussiéreuse et cent fois rapetassée. Le professeur sourit malignement à ses pensées. « Dis-moi, Ossipone, terrible homme, une de tes victimes se serait-elle tuée pour l'amour de toi, ou bien manque-t-il ce succès à la liste de tes triomphes ? Car le sang seul consacre la grandeur. Le sang, la mort, voit plutôt l'histoire. « Au diable l'histoire !» bougonna Ossipone. « Bah, laisse le diable aux faibles qui ont inventé l'enfer pour l'effort. Ossipone, ce que j'éprouve à ton endroit, c'est un aimable mépris. Tu n'aurais pas le courage de tuer une mouche. » En route, sur l'impériale d'un omnibus, le professeur perdit de sa belle humeur. La vue de la foule grouillant sur les trottoirs éteignait son enjouement, faisait peser sur lui le doute et l'inquiétude dont il ne réussissait à secouer le fardeau qu'après une période de réclusion dans la chambre au placard, verrouillée d'un énorme cadenas. « Alors donc, reprit tout à coup Ossipone, Michaelis rêve d'un monde qui serait un superbe et joyeux hôpital. Tout juste, un immense établissement charitable pour la guérison des faibles, commenta sardoniquement le professeur. C'est idiot, opina Ossipone. On ne guérit pas les faibles. Mais après tout, Michaelis n'a peut-être pas tout à fait tort. Dans deux siècles, les médecins régenteront le monde. La science règne déjà. Elle règne dans la coulisse peut-être, mais elle règne. Et toute science culminera finalement dans la science de guérir, non pas les faibles, mais les forts. L'humanité veut vivre, vivre. L'humanité ne sait pas ce qu'elle veut, affirma le professeur, avec une lueur catégorique dans les verres de ses lunettes à monture d'acier. Mais tu le sais, toi, grogna Ossipone. Il y a un moment, tu réclamais du temps. Eh bien, les médecins t'en donneront du temps, si tu es sage. Tu prétends être un des forts en ce monde, parce que tu portes dans ta poche assez d'explosifs pour faire le saut dans l'humanité avec une vingtaine de tes contemporains environ. Mais l'éternité est un maudit trou. C'est du temps qu'il te faut. Toi, si tu rencontrais un individu qui te donna à coup sûr 10 ans de temps, tu l'appellerais ton maître. Ma devise est « ni Dieu ni maître », répliqua le professeur en se levant pour descendre de l'omnibus. Ossipone le suivit. « Attends d'être à plat sur le dos, au bout de ton rouleau, » riposta le docteur à l'instant où il quittait le marchepied. « Oui, à la fin de ton terme de vie, un petit terme mesquin, piètre, galeux, » continua-t-il, en traversant la chaussée et en enjambant le caniveau pour gagner le trottoir. « Ossipone, tu me fais l'effet d'un fumiste, » déclara le professeur, en poussant d'un geste impérieux les portes de la fameuse brasserie de Silène. Et il développa cette gracieuse appréciation dès qu'ils furent installés à une petite table. « Tu n'es même pas docteur. C'est bouffon. Ton idée d'une humanité qui, d'un pôle à l'autre, tirera la langue et avalera des pilules sur l'injonction de quelque solennel charlatan est digne des prophètes. Les prophètes. À quoi bon penser à ce qui sera ? Il leva son boc et, très calme, proféra « à la destruction de ce qui est ». Il but et se replongea dans un de ses coutumiers silences. La pensée d'une humanité aussi nombreuse que les sables des rivages et tout aussi indestructible et impossible à endiguer l'accablait. Le bruit des bombes se perdrait dans l'immensité passive de ces grains de sable où ne se transmet aucun écho. Cette affaire Verloc, par exemple, qui donc y pensait à présent ? Après un temps, obéissant à quelques suggestions mystérieuses, Ossipone tira de sa poche un journal plié et replié. Au froissement du papier, le professeur leva la tête. « Quel est ce journal ? Quelques nouvelles ?» Ossipone tressaillit comme un somnambule effaré. « Rien, rien du tout. Il date d'il y a 10 jours. Je l'aurais oublié sur moi. » Pourtant, il le conserva soigneusement et, avant de le remettre dans sa poche, il jeta furtivement les yeux sur les dernières lignes d'un paragraphe. Elles étaient ainsi conçues. Il semble qu'un impénétrable mystère doive à jamais planer sur cet acte de folie ou de désespoir. C'était la fin d'un article intitulé « Suicide d'une passagère à bord d'un paquebot faisant le service de la Manche ». Ossipon était, certes, familier avec les beautés de ce style de fait divers. Qu'un impénétrable mystère doive à jamais planer. Il savait la phrase par cœur. Il semble qu'un impénétrable mystère... Et le robuste anarchiste, baissant la tête sur sa poitrine, tomba dans une longue rêverie. Il se sentait menacé aux sources mêmes de son existence. Il n'allait plus rejoindre ses multiples conquêtes, celles qu'il courtisait sur les bancs de Kensington Gardens, ni celles qu'il rencontrait le long des grilles, sans craindre de se mettre à leur parler d'un impénétrable mystère. Il avait l'appréhension scientifique de la démence qui le guettait entre ses lignes, doivent à jamais planer. C'était une obsession, une torture. Il avait récemment négligé plusieurs de ses rendez-vous où il employait, avec une parfaite maîtrise, toutes les ressources du langage sentimental et tendre. La confiance que lui témoignait une certaine classe de femmes satisfaisait les exigences de son amour-propre et lui assurait des ressources plus matérielles. Il lui fallait cela pour vivre. Et s'il ne pouvait plus abuser de cette confiance, il courait le risque d'annihiler ses talents et de laisser ses besoins physiques périr d'inanition. Cet acte de folie ou de désespoir. Un impénétrable mystère devait à coup sûr planer à jamais sur ce suicide en ce qui concernait du moins le reste de l'humanité. Mais que faire si, seul de tous les humains, il n'arrivait pas à oublier ce maudit secret ? Il connaissait le dénouement avec autant de précision qu'en avait pu mettre le journaliste dans son compte-rendu. Il savait ce qu'avait vu le surveillant de bord du paquebot. Une dame habillée de noir, avec une voilette épaisse, errait à minuit le long du quai de Southampton. « Prenez-vous le bateau, madame ?» lui avait-il demandé d'un ton engageant. « Par ici, alors. » Elle paraissait ne savoir à quoi se résoudre. Il l'aida à monter à bord. Elle avait l'air d'être faible. Il savait aussi ce qu'avait vu la fille de service, une femme en noir, la figure pâle, debout au milieu de la cabine déserte des dames. Elle lui avait persuadé de s'allonger sur une couchette. La femme ne voulait rien dire et paraissait être la proie d'un tourment mortel. S'apercevant ensuite que la passagère n'était plus dans la cabine, elle la chercha sur le pont et la trouva sur l'un des fauteuils à capuchon. Elle avait les yeux grands ouverts. Mais elle ne voulut répondre à aucune des questions qu'on lui posa. Elle paraissait très malade. La fille de service en référa à son chef, et tous deux vinrent auprès du fauteuil, en se consultant au sujet de leur tragique passagère. Ils parlèrent librement, car elle semblait hors d'état de comprendre, de la confier au consulat de Saint-Malo, qui communiquerait avec sa famille en Angleterre. Puis ils s'éloignèrent pour disposer, à son intention, une cabine dans l'entrepont. Car, par ce qu'ils avaient pu voir de sa figure, elle leur avait paru quasi mourante. Le compagnon Ossipon savait bien, lui, ce qui se cachait sous ce masque blême et désespéré. Un amour tenace de la vie, luttant contre une terreur plus puissante encore, un amour de la vie capable de résister aux angoisses furieuses qui poussent au crime et de surmonter la peur aveugle et affolante de l'échafaud. Mais la fille de service et son chef ne savaient rien de plus. Sinon que lorsqu'ils revinrent, moins de 5 minutes après, la dame en noir n'était plus sur le fauteuil. Ils cherchèrent en vain. Elle avait disparu. Il était alors 5 heures du matin. 1 heure plus tard, un homme de l'équipage trouva sur le fauteuil une alliance. Elle était collée sur une place mouillée du bois, et son éclat avait attiré le regard du matelot. Une date était gravée à l'intérieur, 24 juin 1879. Il semble qu'un impénétrable mystère doive à jamais planer. Ossipon secoua la tête, cette tête chérie de tant d'humbles créatures, nimbée de l'or de ses cheveux comme celle d'Apollon. Le professeur, pendant ce temps, avait senti l'impatience le gagner. Il se leva pour sortir. « Reste là, » fit précipitamment Ossipon. « Que penses-tu de la folie et du désespoir ?» Le professeur passa le bout de sa langue sur ses lèvres sèches et minces et prononça d'un ton doctoral « Ni l'une ni l'autre n'existe. Toute passion est morte à présent. Le monde est médiocre, débile et flasque. La folie et le désespoir sont en réalité des forces, et la force est un crime aux yeux des imbéciles, des faibles et des idiots qui détiennent le pouvoir. Mais aujourd'hui, tout est médiocre. Toi-même, tu es médiocre. Verloc, dont la police a si bien su étouffer l'affaire, était médiocre. Tout le genre humain est médiocre. Folie et désespoir. Donne-les-moi comme levier, et je soulèverai le monde. Ossipone, je te décerne mon plus cordial mépris. Tu es incapable de concevoir même ce que le bourgeois repu appellerait un crime. Tu n'as pas de force. » Il s'interrompit un moment, avec un sourire sardonique sous les verres éclatants de ses grosses lunettes. « Et permets-moi d'ajouter que le petit héritage que tu as fait, dit-on, ne paraît pas t'avoir ouvert les idées. Tu restes assis là, devant ta bière, comme un mannequin. Au revoir. » « Le veux-tu ? » fit Ossipone en le regardant d'un air idiot. « Quoi ? L'héritage dont tu parles. Je te le donne. » Incorruptible, le professeur se contenta de sourire. Il avait des vêtements en loques, des chaussures déformées et rapiécées de partout, lourdes comme du plomb et prenant l'eau à chaque pas. Il dit « Je te ferai envoyer une petite facture, quelques produits chimiques qui me manquent et que je vais commander. Compris, n'est-ce pas ?» Ossipone hocha lentement la tête. Il était seul. Un impénétrable mystère. Il lui sembla voir suspendu devant lui sa propre cervelle palpitant sur le rythme de ses paroles, une cervelle visiblement malade. Cet acte de folie ou de désespoir. Le piano mécanique placé près de la porte joua d'un bout à l'autre une valse endiablée et se tut brusquement comme devenu à faune. Le compagnon Ossipone, surnommé le « docteur », sortit de la taverne de Silène. À la porte, il hésita, clignant des yeux devant un soleil qui n'avait rien d'éblouissant. Dans sa poche, il avait toujours le journal qui relatait le suicide d'une femme. Son cœur battait tout contre. Cet acte de folie ou de désespoir. Il arpenta la rue sans regarder où il posait le pied. Il avait pris une direction qui ne l'amènerait pas au rendez-vous qu'il avait avec une certaine personne, une gouvernante d'âge mûr qui accordait sa confiance à cet Apollon bellâtre. Il fuyait ce rendez-vous, incapable d'affronter aucune femme. C'était la ruine. Il ne pouvait ni penser, ni travailler, ni dormir, ni manger. Mais il commençait à boire avec plaisir, avec espoir. C'était la ruine. Sa carrière révolutionnaire, soutenue jusqu'ici par le dévouement et la confiance de maintes femmes, était menacé par un mystère impénétrable, le mystère d'un cerveau humain disloqué par des phrases de faits divers, plané à jamais sur cet acte. Sa vie penchait vers le ruisseau, de folie ou de désespoir. « Je suis sérieusement atteint, » diagnostiqua Ossipone, avec une perspicacité scientifique. Déjà, les poches bien garnies d'un argent gagné au service secret d'une ambassade, l'héritage de M. Verloc, il barbotait dans le ruisseau comme s'il s'entraînait pour les tâches que lui réservait un avenir inévitable. Déjà, il inclinait ses larges épaules, sa tête aux boucles fines, comme s'il s'apprêtait à recevoir le joug de cuir des porte-affiches. Comme à pareil soir, une semaine auparavant, le compagnon Ossipone marchait sans regarder où il posait le pied, n'éprouvant aucune fatigue, ne ressentant rien, ne voyant rien, n'entendant pas un bruit. Un impénétrable mystère. Il avançait au milieu des passants indifférents. Cet acte de folie et de désespoir. Cependant, l'incorruptible professeur s'éloignait de son côté, détournant ses yeux de l'odieux troupeau humain. Aucun avenir ne l'attendait. Il le dédaignait. Il était une force. Ses pensées caressaient des images de ruines et de destruction. Il allait, frêle, minable, râpé, insignifiant, et terrible dans la simplicité de son idée, appelant la folie et le désespoir à la régénération du monde. Personne ne faisait attention à lui. Il passait, implacable et inaperçu, comme la peste, dans la rue fourmillante d'humanité. Fin du roman.